partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Il est l'heure, Monseigneur. Aujourd'hui, chose exceptionnelle, il y a plus de femmes que d'hommes dans ce studio. C'est assez rare pour être souligné. Et notre invité aujourd'hui, c'est Lucette Papin, des Conteurs de Jaboté. Donc, on va parler de votre activité et présenter l'association. J'ai aussi avec nous dans le studio Marc. Bonjour oui. Marc.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Josiane.
Bonjour.
Et bonjour Valentine.
Bonjour.
Alors, comme à notre habitude, on a une petite année mystère à découvrir ensemble. Je vous propose tout de suite d'écouter le premier titre de musique de l'année mystère avec Diane Dufresne, avec « J'ai découvert l'homme de ma vie ». À tout de suite. L'homme de votre vie aujourd'hui?
Ça peut être un parmi d'autres. Parce que l'homme de la vie, ça ne fait pas toujours une vie entière.
Josiane, je ne te savais pas si gourmande.
Ah, mais en vieillissant, il y a une douceur.
Et vous, Madame Papin, est-ce que ça vous a inspiré, cette chanson?
Oui, l'homme de la vie, ben oui, on est en quête en permanence.
Bon, ben
et
voilà.
Ça fait la recherche du conte aussi.
Très bien. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des Conteurs de Jaboté.
Oui.
Je vous laisse nous en dire quelques mots, et puis on va vous solliciter après.
Oui, alors quelques mots. Alors, donc, je fais partie de l'association des Conteurs de Jaboté. Ça fait plus de 20 ans, qui a fait suite à une autre association au préalable, qui était... alors, il y a eu les Conteurs bleus, Et un des conteurs a fait le choix de devenir professionnel. Et donc, il a laissé une petite partie, enfin une partie de son association, pour les amateurs.
Alors, juste pour l'humour, hein, on est loin des compteurs de vitesse.
oui, c'est ça, des compteurs C-O-N-T-E-U-S.
Voilà, donc qui racontent des histoires.
Qui racontent des histoires. Et du coup, c'est créé les compteurs de la Jabotée. Alors, la Jabotée, pour savoir... pour comprendre, la jabotée, c'est un mot du vieux français qui veut dire dire ce qu'on a sur le jabot. Alors au départ, on était quelques-uns, ça a évolué, on a été jusqu'à une dizaine. Depuis 4-5 ans, on a descendu à 4 l'année dernière, l'année d'avant, on commence à désespérer. Et là, cette année, c'est reparti. Et alors, c'est assez extraordinaire parce qu'une personne arrive, une autre... Et on arrive à 8-9 compteurs. Et donc on va raconter, alors, on va raconter là où on nous demande. Ça peut être mais dans des lieux multiples. On peut aller à la maison de quartier, on peut aller faire des balades. Alors on a fait il y a longtemps des balades le long de l'étang Saint-Nicolas. On a pu faire des... On a été raconté au château du Plessis-Massé, pour dire des lieux quand même. On va aussi dans des collèges.
En costume, j'espère.
Et oui, on ne se costume pas.
Ah.
Non, voilà, parce que nous, on est des conteurs de, enfin, traditionnels, on va dire. Hein, donc, c'est uniquement avec notre voix. On n'a pas de texte, on n'a pas de texte, on n'est pas déguisé. Et c'est vrai que c'est un peu... On essaie de maintenir cette tradition de la voix, de la parole libre et de la transmission. Parce que ce qui nous importe, c'est de transmettre cette parole qui nous vient de la nuit des temps. Parce que les contes viennent des légendes, qui viennent des mythes, et ils portent un message. Et ce message, on se rend compte que, eh bien, il touche toujours les gens. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que on se rend compte que c'est une parole qui est différente, qui est autre, qui est une quête, qui est une recherche, et ça touche toujours. Et parfois, on est surpris des réponses, des réactions. Mmh. Il y a dernièrement, on avait raconté dans un EHPAD, et les personnes étaient là, attentives, et à la fin, elles nous ont dit « Ah, mais c'est vivant, hein !» Et puis, ça fait du bien. Voilà, alors nous, ça nous fait du bien aussi d'entendre ça. Quand on entend des choses comme ça, on sait qu'on a touché les personnes. On sait que ça les a ramenés aussi à quelque chose. Alors, elles n'ont pas forcément tout compris, mais peu importe. Elles ont été touchées, elles ont été...
Vous avez été titillé leur imaginaire.
Oui, c'est ça, leur imaginaire, voilà. Mmh. Parce que c'est ça aussi qu'on va alimenter chez des enfants, par exemple. Eh bien, c'est l'imaginaire, c'est alimenter les mots, le sens de et puis le sens de la vie, et puis les questions autour de
le choix des contes, ce sont des contes qui existent, que vous choisissez, ou vous en créez vous-même ?
Alors, nous, on est dans notre groupe, on fait plutôt le choix de partir de ce qui est écrit.
D'accord.
Puisque, à un moment donné, les contes ont été collectés, c'était par des grands collecteurs qu'on connaît, Grimm, Perrault, etc. Et donc, il y a eu des écrits. Et maintenant, nous, les conteurs, on repart de ces écrits pour les oraliser. Donc, ça veut dire que c'est aussi un travail, une recherche, parce qu'il y a l'écrit. Et maintenant, notre travail, c'est de le remettre en bouche, en voix. Et ça, c'est quand même un long travail.
Donc, il y a un travail de créativité, de création,
Oui, quand même, mais qui est vraiment oral. C'est-à-dire que c'est notre parole, c'est notre jardin, c'est notre culture qu'on va utiliser pour redire le conte.
Et vous le faites en collectif ou si chacun prépare ?
Alors il y a les deux aspects. Il y a à la fois le collectif et l'individuel. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est nous individuellement on recherche notre conte. On va déjà le préparer, le travailler, le mettre en bouche, le ruminer, comme on dit.
Le ruminer, oui.
Le décortiquer avant. Enfin, bref, il y a vraiment un gros travail.
Et après, au niveau du groupe, on le restitue et on travaille avec le groupe. Le groupe, comme ça, justement, il va renvoyer, par exemple, il va nous interpeller sur un endroit, souvent un endroit où on coince, on dit oh, ça va bien passer, et ben non, systématiquement c'est là où on nous renvoie.
C'est pointé quoi.
C'est pointé, bien, voilà. D'accord. Et du coup, le fait d'être à plusieurs, eh bien chacun peut donner des idées. Tiens, moi j'ai vu ça. Ouais, mais là, j'ai pas vu ton personnage. Voilà, parce que c'est aussi. Quand on essaie de travailler un conte, c'est se mettre dans la peau du personnage. Donc il y a même des conteurs qui disent, mais chaque personne, même la plus insignifiante, il faut lui donner une âme.
Oui, c'est ça. Et,
voilà, l'incarner. Voilà, l'incarner. La faire vivre. Donc c'est vrai que c'est malgré tout un gros travail.
Cette mise au point, ça peut prendre du temps. Ça.
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, il y a même un grand conteur professionnel pour le nommer Michel Hindenock qui dit, lui, il peut un conte, ça peut être pendant un an, il va être en lui. Et puis par exemple, un lieu peut l'inspirer et c'est là que ça va se passer. Une balade, c'est ce lieu-là qui va servir un personnage, parce qu'on essaie de les identifier aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une recherche, c'est du travail. Alors c'est vrai que des fois quand des gens viennent nous rejoindre ou ont envie du conte parce qu'ils aiment bien le conte, ils ne se rendent pas compte du travail. Parce que notre parole, elle est en même temps un peu libre, enfin un peu libre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a notre squelette, on a notre départ, notre quête, on sait les étapes et on sait où on va. Entre les parties, on a un petit peu de
libre.
Oui, il y a de l'improvisation.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'un conte, on ne va jamais le raconter de la même manière, en fonction du lieu, en fonction des personnes qu'on a en face de nous. Et puis même, ça nous arrive, notamment la dernière fois au collège donc de la Barre, où là on avait 3 classes de 6e, on a raconté une fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois on a raconté le même conte. Eh bien, les contes étaient différents chaque fois presque, parce que les jeunes réagissaient de manière différente. Et ça, c'est comme si à chaque fois on faisait quelque chose de nouveau. Et c'est là où c'est passionnant, quoi. Mais en même temps, des fois, c'est...
c'est exigeant aussi.
C'est exigeant. C'est exigeant parce qu'on a tout. On a tout emmagasiné. On a nos images. On en sait plus que ce qu'on dit. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail.
Je vous propose de faire une petite pause musicale pour redécouvrir l'année mystère sur lequel a travaillé ardemment Ricardo, je suis certain. Non, il a une excuse, il n'était pas là la dernière fois. Donc la chanson en question, il s'agit de Michel Sardou avec La maladie d'amour. C'est un petit peu la suite de la précédente. Ricardo, on se retrouve tout de suite après.
Ok. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. 7 à 70.
C'était La maladie d'amour de Michel Sardou, après après quoi court toujours Ricardo. Je ne sais pas si tu cours après, après Michel Ricardo.
Je ne sais pas creuser bien profond. Non, on n'avait dit pas de blague morbide aujourd'hui.
Bon, Madame Papin, vous nous avez parlé un petit peu des publics auprès desquels vous intervenez, des univers aussi de Perrault et de Grimm. Est-ce que vous auriez un petit exemple de conte à nous faire profiter?
Alors, je vais vous présenter un conte qui vient d'un personnage du Moyen-Orient, qui s'appelle Nashreddin. Donc, c'est un personnage qu'on rencontre donc dans le Moyen-Orient et qui est, pour certains, c'est un fou, pour d'autres, c'est un sage. Alors, est-ce que c'est un fou sage ou un sage fou? À chacun de l'imaginer. En tous les cas, il lui arrive des tas d'histoires et les fins sont toujours assez surprenantes parce qu'il est un peu dans l'ironie et voilà, dans la moquerie, parfois dans la sagesse aussi.
Alors, on vous écoute.
Donc, ce soir-là, Nashreddin, il rentre chez lui et il a un sac de dattes qu'il mange les unes après les autres et tout va bien. Quand il arrive chez lui, dans la maison, il fait noir. Donc, ce qu'il fait, il allume la lumière, normal. Et il reprend une datte, et il la croque, il la regarde. Ah, mais un verre! Ah, il jette la datte, il reprend une datte, il croque. Ah, mais encore un verre! Il la jette, il en reprend une troisième. Et là, il voit qu'il y a à nouveau un verre. Alors, savez-vous ce que va faire Nashreddin? Oui? Il va éteindre la lumière et il va continuer à manger ses dattes. Il a toujours trouvé merveilleuse, extraordinaire. Voilà.
La voie de la sagesse.
La voie de la sagesse.
Bon. Ou la politique de l'autruche.
aussi. Mais vous voyez, chacun a une lecture différente. Chacun y voit en fonction de ce qu'il est. Voilà.
Bon. J'ai pas dit à nos auditeurs que Ricardo était à distance, donc Ricardo nous a rejoint en distanciel, puisqu'on, avec le Covid, on peut pas toujours être aussi nombreux dans le studio. Ricardo, comment ça va et qu'as-tu pensé de ce conte?
Oui, moi ça va. Encore plus que je sois à distance de toi, donc je rigole. Non, c'est Yann Belmé. Enfin, il y a comme j'ai oublié le nom de l'invité du coup.
Madame Papin. Lucette.
J'avais raté le début, donc.
Lucette.
Non, c'est comme elle disait, chacun a une lecture en fait de cette histoire, en fait, et c'est ce qui est toujours, comme dans la vie, c'est toujours ce qui est intéressant dans les contes. Chacun en tire un petit peu sa leçon.
Voilà. Et puis, on est touché ou pas par un conte ou par un autre. Et ça, le conteur ne le maîtrise pas, mais il va être sincère, il va donner ce qu'il a donné, sa parole. Voilà. Parce que c'est un passeur, le conte. C'est un passeur d'histoire, de légendes, de mythes. De toute cette parole.
Et le retour de l'auditoire, c'est votre récompense.
Oui, fait. C'est ça. Bien sûr, et c'est vrai que parfois, c'est assez extraordinaire. On a, comme je disais tout à l'heure, à l'EHPAD, où une personne qui disait « Ah, mais c'était vivant, ça change de l'habitude des autres animations. Ben, » Merci. Et un élève aussi, en sixième, qui a dit « Mais moi, j'ai vu les images. » Et là, c'est une belle récompense parce que ça veut dire que c'est ça notre rôle, c'est de voir. Par exemple, c'est comme si un film défilait devant nous et on le décrit et on donne à voir aux personnes. Voilà. Donc c'est vrai que quand on entend ça, on se dit c'est bon quoi.
C'est comme ce que disait Raphaël, ça stimule l'imaginaire. Quoi. C'est ça qui est formidable.
C'est ça.
J'avais une petite question. Moi, les contes que vous lisez sont des contes d'auteurs que vous regroupez comme ça, ou c'est des contes écrits par des gens de votre entourage ou des gens avec qui vous travaillez?
Alors, il faut l'excuser, il est arrivé en retard.
C'est pas grave. Mais déjà, je vais vous corriger. On ne lit pas les contes. les dit, on les oralise.
Okay.
Et alors ils viennent la plupart du temps de l'écrit maintenant. Hein. Nous, on oralise ce qu'on écrit. On n'invente pas, on ne fait pas partie de ces conteurs, parce qu'il y en a actuellement, des conteurs qui créent leur propre conte, mais nous, on part plutôt de l'écrit, puisque on a matière, on a beaucoup de matière quand même encore, et qui est possible de transmettre encore, et qui sont encore accessibles pour les enfants et pour les adultes.
Et alors, j'avais une question, moi, aujourd'hui, la transmission orale, c'est quelque chose qui se perd un petit peu dans nos sociétés modernes. Est-ce que pour autant, vous faites perdurer cette tradition? Et est-ce que, par exemple, vous avez, vous, dans les contes que vous pouvez raconter, des choses qu'on ne trouvera nulle part sur Google, ou voilà, qui sont aujourd'hui... Des petites pépites, enfin, du fin fond de la Bretagne comme du Kenya, je ne sais où.
Alors, je dirais, on va pas forcément, les contes qu'on va utiliser, on va pas les forcément les trouver sur Google, on va les trouver dans les livres. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que comme on les retravaille, comme on les met à notre bouche, ben, à chaque fois, ils sont différents. Parce que, en tant que conteuse, j'ai l'expérience d'avoir écouté des contes d'un conteur, d'une conteuse, et à chaque fois, c'était quelque chose de différent. Donc, à la fois, c'est le même texte, mais à la fois, c'est une création. Et on se laisse porter par ça. Parce qu'en fait, quand on écoute un conte, il faut se laisser porter par cette parole.
Et justement, moi, en vous écoutant, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est raconter, en fait.
Oui, raconter. C'est ça. Raconter, oui, c'est ça.
C'est un peu ça l'histoire.
C'est un mélange de rat et de fromage.
Vous racontez
des
histoires.
Oui, c'est ça. On raconte les histoires. Et c'est vrai que c'est
ça, un monde du rat.
Ouais. Et on a, si je peux parler de l'expérience qu'on avait eue avec France Alzheimer. Pardon. Ouais. Donc on a commencé. Alors c'était avant la Covid, parce que. On devait faire une nouvelle fois et ça a été annulé, juste la première vague. Et on est allé donc dans les après-midi récréation, ou je ne sais plus comment vous appelez
ça. Après-midi loisir.
Loisir, pardon, récréation. Loisir. Et on l'a fait 2-3 fois. Et à chaque fois, c'était un moment extraordinaire. Les gens étaient bienveillants. Alors. Nous, on pensait qu'on s'adressait aux personnes atteintes. Et en fait, c'était autant. On s'est rendu compte qu'on a plus touché les personnes aidantes. Et ça leur a fait un bien extraordinaire. Et les gens partaient dans nos comptes et ils nous emmenaient et nous, on les suivait. Enfin, il y a vraiment eu des moments très, très sympathiques, d'échanges forts. Moi, j'ai vécu ces moments-là de manière très forte. Oui. Ça fait partie des bons souvenirs.
Il faut rappeler que sur ces après-midi loisirs, on n'est ni aidant ni malade, on est juste des humains.
Oui.
Ensemble.
Oui, c'est vrai qu'il y a... Enfin, j'ai en mémoire une des personnes qui était malade, mais elle avait un visage rayonnant quand elle écoutait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et parfois, il y avait des chants traditionnels. Et quand il y avait les chants, elle donnait de la voix, elle chantait, souvenait des paroles. Et là, on se dit, mais voilà, l'oralité, la présence, l'échange, tout était réuni pour toucher ces personnes. Et c'était vraiment extraordinaire. Pardon.
C'est une activité qu'on avait aussi eue, je ne crois pas que ce soit avec vous, mais on avait eue à la Croix-Rouge, à la Halte Alzheimer, et c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Oui. Et je me rappelle même qu'on avait fait avec un lycée une activité intergénérationnelle autour du conte, justement, et ça avait très bien marché, parce que, comme on disait, ça touche l'imaginaire, ça touche aussi, c'est comme les chansons, ça touche le vécu, ça touche l'empirique, en fait, et chacun a sa sensibilité par rapport à ça, et ça ne laisse personne indifférent, on va le dire.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça touche la mémoire, ça touche le rêve, ça touche l'imaginaire.
La poésie.
Et la sincérité, parce que, voilà. Puis c'est une parole qui n'est pas celle de tous les jours, c'est une parole qui nous emmène, qui nous porte.
Alors justement, on va partir un petit peu en voyage avec la troisième chanson. Je vous coupe un peu, pardon.
Vous allez me couper, parce que...
Donc la troisième chanson, pour deviner l'année mystère, en l'occurrence, il s'agit de Ringo. Et Sheila qui chantait « Laisse les gondoles à Venise ». On se retrouve tout de suite après.
Laisse les gondoles à Venise,
se faire des œufs au jambon, des paniers, du café chaud. L'esprit condamne la Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien.
J'ai pas l'image de Ricardo, mais je suis certain qu'il dansait tout seul.
Au moins, il risquait pas d'écraser les pieds de sa voisine.
C'est ça. Alors, Madame Papin, c'est un émissaire, je crois que...
Moi, sur l'émissaire, je voudrais quand même dire un tout petit truc. Pour la première fois... La deuxième chaîne télé est en couleur. C'est la première où ça arrive. Le gros scandale de l'année, c'était le scandale du Watergate, où Nixon a été obligé de démissionner, bien sûr. Et puis, on avait quelques films, L'Emmerdeur, ça vous dit quelque chose. Mon nom et personne. César et Rosalie, c'est voilà.
Mon nom et personne, c'était pas avec Henri Fonda.
Mon nom et personne.
Oui, je crois. C'est peut-être pas un film avec Henri Fonda.
Mon nom et personne.
Je sais que je l'ai vu, je l'ai pas aimé.
C'est le truc américain là, avec la musique de.
Comment c'est ça s'appelle? C'est un film western.
Voilà.
Joker.
Oui, parce qu'évidemment, je le connais, mais il m'a échappé.
Je crois que c'est un film western avec Henri Fonda.
Mon nom et personne, c'est un film western. Les westerns spaghettis, comme on disait à l'époque. Quoi. Et puis alors, un film aussi qui a été un grand succès, c'était, et qu'on a revu, ça fait pas longtemps, c'est Rabbi Jacob.
C'était cette année. Bien évidemment...
Les aventures de Rabbi Jacob. Et puis, au niveau, puisqu'on parle une fois ou l'autre des décès, Fernand Reynaud pas très âgé, et puis Melville.
C'est un réalisateur.
Le cinéma.
Ça.
Et puis Pablo Picasso. Et c'était aussi l'année où Brigitte Bardot a mis fin à sa carrière consacrer complètement à la cause des animaux.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Sinon, bah, pour le cinéma, cette année-là, je sais qu'il y avait d'autres films qui étaient vraiment pas mal. Il y avait un truc de Clint Eastwood, je crois, parce que j'ai reconnu l'année, bien sûr, pas le film, mais et Sardou. Mais il y a Brizzy et je crois que c'est Papillon, je crois, avec Steve McQueen.
Ah oui, Papillon.
Ah oui, oui, d'accord.
Ça datait de cette année-là, je crois.
Le Bagnard.
Je ne l'ai pas.
Soit cette année, soit un ou deux ans après.
Ah, on n'est pas dans le même. Bon.
Moi, j'ai retenu qu'un seul événement dans l'année mystère, c'est que c'était, comme aujourd'hui, la crise.
Hein? Oui, alors la crise de rire, parce qu'on avait une speakerine à la télévision à ce moment, qui s'appelait Denise Fabre.
Oh, Denise Fabre.
Et quand elle partait à rire, on ne pouvait plus l'arrêter.
Alors, moi, j'étais plus sur la crise pétrolière, mais...
Il y a eu aussi, mais enfin bon... et le cessez-le-feu au Vietnam.
Oui, justement, c'était un peu guerre et paix. Parce que dans la même année, il y a eu le processus donc de la paix au Vietnam qui a démarré, hein, qui s'est terminé en 75 avec la prise de, avec Saigon. Hein, c'est là que ça s'est terminé. Mais il y avait aussi, il y a eu aussi la guerre du Kippour, en mois d'octobre, qui est en lien justement avec ce que disait Raphaël, c'est-à-dire le choc pétrolier, puisque ça a été l'OPEP à ce moment-là qui a réagi et qui, pour soutenir justement le camp arabe, finalement, a augmenté le pétrole de 50%, voire 75%, donc d'une manière brutale, et qui a enclenché après tout un processus économique. Mais c'est vrai que c'est vraiment guerre épais, quoi. Il y a les deux dimensions.
Madame Papin, il me semble que vous aviez trouvé l'année mystère en question.
Oui.
Dites-nous.
Eh bien, 73.
Eh bien, on est obligé de vous donner raison. Bravo.
Bravo.
La médaille d'or.
Oui. Alors, on voulait traiter aujourd'hui un petit sujet pour ou contre. Josiane, tu avais, j'ai envie de dire, des conseils et peut-être même un coup de gueule à passer.
Bon. Il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
J'avais émis une idée, pensant qu'on aurait quelqu'un qui pourrait développer l'exposé. Alors, le petit coup de gueule, oui, parce que à travers mes rencontres et autres, je vois plein de gens qui se font avoir.
Alors, on va dire tout de suite la thématique, pour ou contre les assurances dépendance.
Alors... Oui. Et je voulais juste qu'on... Moi, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, donc j'aimerais bien qu'on me rappelle ce que c'est.
Eh bien, Josiane va t'expliquer.
Alors, parmi les multiples assurances qu'on nous propose, hein, l'assurance vie, l'assurance ceci et cela, il y a une assurance qui est proposée aux personnes en disant « Le jour où vous devenez dépendant ou invalide et autres, on vous verse une rente mensuelle, des choses comme ça. » Donc, moi, j'ai plein de gens qui disent ben, « on a adhéré, on avait 40 ans, on a payé pendant 20, 25 ans et on arrive à 70 ans. Ça y est, j'ai du mal à me déplacer chez moi, j'ai besoin d'une canne et tout ça. » Et je demande à recevoir cette rente qui va m'aider à prendre quelqu'un de l'extérieur ou autre. Et à ce moment-là, ils reçoivent une lettre, parce qu'en principe, ces gens-là, c'est pas par Internet qu'ils demandent le renseignement, n'est-ce pas ? Donc, ils reçoivent une belle lettre en disant, bah, oui, vous avez des difficultés et tout, mais vous n'êtes pas invalide. Comment je suis pas invalide ? Ah non, nous, il faut que vous soyez invalide au titre comme la sécurité sociale, à 80%. Ça veut dire que vous soyez pratiquement immobilisé dans le fauteuil, qu'on vienne vous faire votre toilette, qu'on vous fasse manger, qui ceci, qui cela. Ou alors, si vous la voulez vraiment, ben on vous la déduit des trois quarts, hein, le capital que vous aviez versé. Alors, ça remue. Hein. Alors, je veux dire que quand vous êtes sollicité, c'est une bonne chose. Hein? Mais faites attention, parce que par exemple, on peut avoir une personne Alzheimer qui n'a plus toutes ses capacités, mais du moment qu'elle mange encore toute seule, qu'elle ceci, que cela, elle n'a pas 80%, donc on ne verse rien.
Et sans tomber dans la maladie neuroévolutive, effectivement, le barème de sécurité sociale est, on va dire, à une grille très rigide qui fait que s'il nous manque un bras, finalement, c'est jamais que 15 ou 20% d'invalidité. Et voilà. Il reste 75-80%, tout va bien. Bon, bah voilà, c'est.
Donc, faites attention, lisez bien tout, ne signez pas tout de suite, prenez des renseignements et autres. Faites attention.
Alors, j'ai ouï dire que le nombre de pages de ce genre de contrat,
il y en a 8 ou 9,
c'était au minimum 30.
Ah, 30 en bas, c'est
donc
encore
c'est,
pire.
Donc, ce qui explique, Josiane, la difficulté.
Tout à fait. Puis alors, en plus, c'est écrit très petit. Donc, t'as du mal à lire. Non, mais
dans un langage juridique, abscond, de l'assurance. Et c'est vrai que t'as raison de souligner ça, parce que moi, en regardant de près cette question, j'avoue que ça fait réfléchir. Hein, ça fait réfléchir. Et les gens qui. Évidemment, ces assureurs-là, ils ne travaillent pas tout à fait d'une manière bénévole. Hein.
J'oserais pas dire qu'il vaut mieux favoriser une assurance vie, parce qu'avec une assurance vie, vous pouvez même reprendre sur le capital quand vous en avez besoin au fur et à mesure. Puis qu'elle ira éventuellement aux personnes que vous désignerez après, tandis que votre assurance soi-disant invalidité.
Alors, j'ai une question, je ne me suis pas renseigné sur le sujet, Josiane, mais tu vas peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que cette assurance fonctionne comme une capitalisation, à savoir qu'on économise et on nous restitue?
Non,
est-ce que c'est sur un système mutualiste tout le monde contribue à la dépendance éventuelle?
Non. Tu souscris un contrat qui, si tu rentres dans les conditions, t'assurera tel revenu mensuel. Hein, pour faire face aux événements de la vie. Mais c'est pas, je ne sais même pas si c'est revalorisé ni rien. Hein.
D'accord.
Là, j'ai eu des chiffres là, de 2017 où donc la moyenne de ce genre de contrat en cotisation, c'était 457 euros pour une rente, alors si les conditions sont réunies, on est d'accord, à 598 euros. En moyenne, hein, donc, sachant que la rente dépendance elle se situe entre 300 et 4 000 euros, enfin, suivant les contrats. Et en 2017, il y avait 7 millions de personnes qui souscrivaient une cotisation rente dépendance.
Bon, c'est toujours une bonne affaire, mais pour l'assureur, c'est ça?
Oui, je pense que oui. En tout cas, c'est très, très, très bien étudié.
C'est vrai que moi, je c'est peut-être un peu naïf, hein, mais je comprends pas l'intérêt de souscrire à une assurance comme ça. Parce que, je veux dire, si le but, c'est simplement de mettre de côté, pourquoi on ne crée pas un compte pour après? Ou alors, je comprends pas trop le principe de l'assurance, mais...
Non, mais c'est comme l'intérêt de base, ou l'intérêt vendu sur le papier, c'est comme l'assurance voiture. Tu cotises, quand tu as un accident, on te rembourse à hauteur du dommage subi ou du besoin que tu as. Donc c'est un petit peu le même principe. Donc on vend aux personnes que quand ils seront invalides, ce qui c'est qu'on sait que ça génère beaucoup 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 de frais, l'invalidité, justement à l'adaptation de l'environnement, l'adaptation, enfin les besoins quotidiens, les besoins personnels, tout ça. On leur dit bon, mais on va vous, à ce moment-là, on va couvrir vos besoins. C'est surtout ça, ce n'est pas juste que ce qu'on a cotisé qu'on redonne, en fait.
Sachant que, pour répondre aussi à ta question, l'idée c'est que les parents de ces personnes-là, donc sont souvent en difficulté face aux sommes.
La
vie s'allongeant, le coût d'une situation un peu dégradée, hein, en termes de moyens qu'il faut mettre à disposition, voire les maisons spécialisées, etc. Donc ce qui fait que on y pense parce qu'on se dit comme ça je serai moins dépendant de mes propres enfants, enfin voilà, il y a cette interaction là
le vœu souvent des couples c'est de rester chez eux le plus longtemps possible. Or tu peux, mais à condition qu'il y ait plein de personnes qui viennent t'aider.
C'est ça, hein.
Je vois qu'on est tous un peu partagés, mitigés sur le sujet, effectivement.
Je crois que ça a été plus à charge qu'autre chose, moi.
Oui, mais dans tous les cas, il y a aussi des bénéficiaires qui doivent en profiter. Et en revanche, effectivement, le travail de l'assureur, c'est de protéger, oui, mais pas n'importe quel prix. Donc le tout, c'est de bien lire toutes les petites lignes quand on signe un contrat. Ça nous engage. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause avec la chronique UFC que choisir que m'a envoyé Jean-Jacques. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais par la magie de la technique, il est quand même là. Donc on l'écoute et on réagit tout de suite après. À tout de suite.
Bonjour à vous. Ceci est une rubrique de l'UFC que choisir. Pratique abusive de centres de soins. Des établissements de santé privés opèrent à grande échelle dans le marché de l'ophtalmologie. Ils concentrent un grand nombre de praticiens et adoptent des méthodes plutôt industrielles. Mais l'assurance maladie a repéré dans ces structures des pratiques abusives qu'elle dénonce à la justice. L'assurance maladie a déposé plainte pour escroquerie et usage de fonds, ce qui est plutôt rare. Sa démarche vise une quinzaine de centres ophtalmologiques, des établissements de grande dimension aux pratiques tarifaires suspectes. Selon les statistiques des caisses, le coût de prise en charge dans ces grosses structures a presque doublé en 5 à 6 ans. Il est même devenu nettement plus élevé que la moyenne d'un cabinet libéral. L'examen détaillé des facturations a montré une falsification des soins lorsque plusieurs sont dispensés dans une même consultation. Dans ce cas, la règle impose aux praticiens d'appliquer le plein tarif seulement sur la première prestation et une réduction de moitié sur les suivantes. Ces centres ont déclaré les soins multiples sur des différentes dates pour les facturer tous à plein tarif et ainsi augmenter artificiellement leur chiffre d'affaires. Ces facturations sont donc clairement irrégulières, non conformes à la réalité des actes. D'autres procédés abusifs ont été repérés, comme le redoublement du paiement des mêmes soins pour un rendez-vous de contrôle qui n'a pas été réalisé. Le marché de la santé intéresse de plus en plus des opérateurs privés, comme les maisons de retraite ou les soins dentaires. Ainsi, des centres dentaires se multiplient à leur tour dans les villes. Ils dispensent principalement des prestations particulièrement coûteuses, prothèses et implants, sans proposer les soins d'entretien ou de prévention moins rentables. Ces initiatives perturbent à la fois la répartition de l'offre de soins et la maîtrise des coûts pour l'assurance maladie.
Bon, donc effectivement, en vivant en France, on a de la chance, on a des soins accessibles plus ou moins facilement. Mmh. Et surtout, en donnant simplement notre carte vitale, on ne se rend pas toujours compte des vrais coûts de la médecine. Mmh. Et pour le coup, on se fait réellement abuser. Mmh. Voilà. Je suis en train de regarder autour de la table, nous sommes 5 et nous sommes 4 à porter des lunettes. Mmh. Non, je ne dirais pas qu'ils n'en portent pas.
Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne travaillent pas à l'œil, en tout cas.
Et encore. Normalement, j'ai des lunettes.
Mais là il parlait donc de centres. C'est des centres spécialisés. J'ai pas tout.
Bah, le fait est que je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a des centres qui sont spécialisés sur par exemple de l'intervention chirurgicale. Hein, la chirurgie de l'œil, on va dire, est quand même facturée.
Voilà. Oui, avec des professionnels, enfin des médecins,
oui, bien
des
sûr.
Chirurgiens. Enfin...
Oui, mais pour le fait est qu'il y a des actes qui sont facturés qui ne sont pas réellement établis. Donc, positionner 3 rendez-vous alors qu'on voit le patient qu'une fois.
Ou des opérations de la cataracte qui n'étaient pas obligatoires et on y a passé. Hein.
Oui, donc il y a des dérives en fait dans la gestion pour récupérer de l'argent, quoi, tout simplement, c'est ça en clair.
Bah, c'est l'industrialisation du soin, effectivement, on va raisonner en termes de profit et non plus en termes de bénéfices aux patients.
Et comme, excuse-moi, on a de moins en moins de dentistes indépendants, d'ophtalmo-indépendants, donc tu es obligé de passer par des établissements comme ça, quoi.
On fera un pour ou contre hein, sur les consultations privées-publiques, parce qu'il y a de la matière là aussi.
Et les contrôles que devrait faire l'ARS.
Ouais. Je vous propose une dernière petite pause musicale, et puis on se retrouve tout de suite après pour la chronique encore de Jean-Jacques sur l'album de l'année. Il s'agit de Marie Laforêt avec la chanson « Viens ».
Bien,
voilà. Je crois qu'elle est attendue dans le studio.
Ah, une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens. N'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens. Vous y dormirez, oh, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu verras ma mère. Bien, bien, et plus belle qu'avant, 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 qu'avant.
Bon, donc c'était Marie Laforêt avec Viens, viens. Ricardo, tu la connaissais?
Non, je ne la connaissais pas.
Oh, bah voilà, on est là pour apprendre ensemble, c'est ça qui est bien. Bon, je crois que le sujet médical a vraiment animé notre studio, on fera une émission spéciale. Hein.
Ouais, j'entendais ça en fond de Viens, viens.
Bon. Alors, 1973, c'était une année riche culturellement. Il y a eu plein de cinéma. Vous avez cité beaucoup de films tout à l'heure, mais c'était également une année musicale. Et l'album de l'année qu'a choisi Jean-Jacques, c'est un album de Serge Gainsbourg. Je vous propose tout de suite de l'écouter et d'échanger après.
Bonjour. L'album Vu de l'extérieur de Serge Gainsbourg est un album qui a eu assez peu de succès, vu les chiffres de vente, mais un bon succès critique. En fait, une seule chanson me semble-t-il a une certaine notoriété, c'est « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Connu pour avoir fortement ému Gainsbourg jusqu'aux larmes, lors d'une émission à la télé de Patrick Sébastien, où une chorale d'enfants grimés, maquillés, habillés, masqué peut-être en Serge Gainsbourg et chantant cette chanson. Ses paroles étaient encore des notes. Il chantait encore de sa voix chaude et il chantait formidablement bien.
Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais.
La pochette de l'album est singesque. Je veux dire par là que Gainsbourg se moque de lui-même. Comme souvent, il brocarde sa laideur et s'entoure de photos de différentes races de singes. C'est provocateur, ça peut paraître risible, mais c'est aussi assez proche de son état d'esprit de l'époque, désabusé à coup sûr. Quelques années plus tôt, il avait composé ce qui est considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre, Melody Nelson. Enregistré après une crise cardiaque, il a la trouille. Même s'il vivra quand même encore presque une vingtaine d'années, son décès date de 1991, malgré tous ses excès, tabac et alcool. Une seule chanson dans cet album, à ma connaissance, s'inspire ouvertement d'une autre œuvre, contrairement à pas mal d'albums qui contiennent des chansons qui sont inspirées d'œuvres musicales classiques. Et ce, dès Poupée de cire, Poupée de son, qui emprunte à Beethoven. Gainsbourg n'a jamais caché qu'il puisait son inspiration dans les grands morceaux classiques. Pour cet album, je vais parler donc de la chanson Je suis venu te dire que je m'en vais, qui s'inspire seulement niveau paroles de la chanson d'automne tirée des poèmes saturniens de Verlaine, mise joliment en musique jadis par Charles Trenet. Vous savez, celle qui dit « Les sangles longs des violons de l'automne » et puis « Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte ». Serge Gainsbourg, lui, dit « Je suis venu te dire que je m'en vais » comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Et puis « Tu sanglotes, tu gémis, à présent qu'a sonné l'heure ». Il est bien compris et admis que ses paroles ne veulent pas dire qu'il quitte Jane Birkin. Mais plutôt, comme il vient de frôler la mort, il parlerait plutôt de son départ définitif. Plutôt triste, déprimant. Quelques phrases répétées, une mélodie géniale, une douce mélopée répétée elle aussi. Et c'est une magnifique chanson qui nous offre tout en douceur. Et les sanglots de Jane remplacent ses rires, ricanements et borboriques, comme dans l'étonnant morceau en mélodie dans l'album Melody Nelson. Gainsbourg, il ne faut pas l'oublier, a bénéficié en grande partie du talent de son complice Jean-Claude Vanier. La chanson, vue de l'extérieur, évoque un sujet pas pour toutes les oreilles.
Je vais te faire voir, va faire voir ailleurs. Tes goûts de doux, ton goût tout doux est en postérieur.
Des bruits encore, des onomatopées, des coups de klaxon, d'un taco d'un autre âge, d'un vieux taco, un peu le genre de la voiture de Gaston Lagaffe dans la chanson Pan Pan Cucu.
Quand je me trimballe une petite poupée dans mon tape-cul, c'est comme si je lui faisais Pan Pan Cucu. La voici bientôt en chaleur, sur des charbons.
Et d'ailleurs, dans la chanson « L'épée des boums », des vents d'épée des boums, les bruits sont encore de la fête. Scatologie amusante, mais pas aussi vulgaire que dans certains sketchs de certains humoristes. Suivez mon regard. Oh, pardon, j'oubliais qu'on est à la radio.
Le temps vent, tu fais des vents. Tiens, celui-là, c'est pas mal du tout. Il a fait boum. Et celui-ci est parti comme une balle doum doum. En l'attendant, tu fais des vents, des peu de boum.
Le piano a une grande importance dans l'accompagnement musical de ce disque. N'oublions pas que Gainsbourg fut pianiste de bar. Parfois de longues et belles introductions, pas loin du grand piano de concert. Il joue sur les mots, sur les sonorités, et donc sur les titres de morceaux comme « Pamela Popo »,« Titi Caca », »,« Encore le caca »,« L'hippopodame »,« Sensuel et sans suite »,« Par hasard et par rasé », où il évoque la jalousie. Redécouvrez cet album, il le mérite. Gainsbourg, après avoir créé le magnifique Melody Nelson, nous offrira « Rock Around the Bunker », puis « L'homme à la tête de chou », autre chef-d'œuvre. Avant d'entrer de plein pied dans sa période Gainsbar. Et là, c'est une autre histoire. Et peut-être qu'une prochaine année mystère sera l'occasion d'en parler. À bientôt.
Madame Papin, est-ce que Gainsbar aurait fait un bon conteur?
Ah oui, certes, certes. Oui, oui, c'est un très bon conteur et il sait emmener les gens loin aussi. Bon. Je pense que... Oui, 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 oui. Et puis c'est... ces chansons étaient riches, elles étaient pleines de plein de choses, de quêtes, voilà. Comment ils provoquaient les réactions, bien sûr. Le conte aussi, il a cette faculté-là de... Pardon. De, ben, d'aller chercher, d'aller voir, de, d'être dans cette quête, dans cette recherche de réponse.
Est-ce qu'il y a des personnages que vous portez dans vos contes, ou bien, alors je vais dire n'importe quoi, hein, ça peut être effectivement Boris Vian, Napoléon, Jules César, et d'autres. J'ai pas cité de femmes. Cléopâtre, Jeanne d'Arc.
Je pense qu'il y a des... Ouais. Je pense qu'il y a des conteurs qui s'inspirent vraiment des mythes. Moi, je n'ai pas cette culture-là. C'est émouvant, et puis c'est aussi c'est notre histoire, c'est aussi notre rôle, hein, enfin, en tant que conteur, de transmettre, de faire, enfin,
et alors, passer. Moi, ça m'amène à la réflexion suivante. Aujourd'hui, vous travaillez avec des historiens ou des sociologues ?
Non, honnêtement, non. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'était rapproché de l'association des mythologies françaises.
Pas des mythomanes.
Non, je cherchais. Non, j'étais mythologue. Non, l'association des mythologies françaises.
Qui sont sur le mythe, qui travaillent sur le mythe.
Qui travaillent sur le mythe. Mais c'était très, très pointu. Et c'est vrai que moi, j'ai pas... Enfin, bon, voilà, mon grand regret, j'ai pas cette culture de base. Parce que c'est vraiment très, très pointu. Et là, il faut faire des recherches qui sont aussi très importantes. Et comme, bon, je travaillais encore, voilà, il faut du temps.
Bon, tout a une fin. Et
oui.
Les contes y compris. L'émission y compris. On arrive déjà à la fin de l'émission. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Idée-leur, Monseigneur. Merci, Madame Papin.
Merci à vous tous.
Des conteurs de Jaboté.
De Jaboté.
Merci, Marc.
Allez, au revoir. À bientôt.
Merci.
Merci, Josiane.
Merci à tous.
Au revoir.
Et merci, Valentine.
Au revoir.
Et puis, Ricardo, merci de t'être joint à nous.
Merci à vous aussi.
À très vite. Hein.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette.
Radio G 101.5 FM.
You're on the anti-circle, on the mad train like a rain that's purple.